Bonsoir, il est 21h. Bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir. Émission imaginaire. Romain est article avec moi pour cette 10e émission imaginaire qui est un petit peu freestyle, il faut le reconnaître. On l'a
freestyle
déjà. Non, mais disons que.
Comme tu y vas.
Elle n'est peut-être pas aussi carrée que les précédentes. Donc voilà, on va essayer de vous donner
donc,
un maximum.
N'hésitez pas à appeler le standard
oui,
de la radio.
Oui, pour vous plaindre. Ouais,
09 69 80 41 68.
Voilà, pour laisser
radio
des
G.
messages. Insultes. Pas forcément. Oui, bon, pas forcément aussi. Donc, spécial Rivière Blanche ce soir. On va vous causer de Rivière Blanche, cet éditeur, avec une présentation vraiment très détaillée, quelques coups de cœur, etc. Quelques références. Et puis entrecoupé d'un peu de musique. Et puis Romain voulait nous parler
pas mal
aussi,
de musique synthétique en ce qui me concerne. Et voilà. Oui, à la fin de l'émission, je vous parlerai d'un label qui s'appelle Death Wolves Recording, qui se spécialise dans les rééditions de musique de film
voilà.
De genre.
Et on va, comme on avait fait la dernière fois, laisser aussitôt la parole à Tyrannosaurus Imperium, sinon il nous bouffe. Donc,
voilà, la suite des aventures d'Ernest et Ernestine.
Ah.
Bonsoir les cahouettes. Je vous ai déjà parlé d'Ernest et Ernestine, les stégosaures, dont ma famille avait failli causer la disparition. Il faut dire qu'à l'époque, les loisirs étaient limités. Pas la moindre émission de télé-réalité, les conflits se réglaient au corps à corps entre personnes concernées, l'argent et les matières premières n'avaient aucune importance, bref, le contraire de notre époque où on s'amuse tant. Bon, ok, dans les deux cas, c'était mieux d'être un prédateur, hein. Donc, Ernestine avait pondu peu de temps auparavant de grosses billes calcaires en cuir à l'aspect dégoûtant mais pourtant délicieux, genre MMM aujourd'hui. Ces œufs, judicieusement cachés, ont réussi à éclore loin de nos insatiables appétits. Le responsable de cette sauvegarde inespérée est un protocératope à collerette grise, surnommé Phil le gardien. Ce sacré Phil n'en ratait pas une. Il vivait dans une région reculée, étonnamment douce. Il était cathareux, une hérésie. Il passait son temps à essayer de faire le bien. Je n'ai jamais réussi à le toper, sinon je vais expliquer deux, trois trucs. Son plus bel exploit, tiens. Après avoir assisté à la disparition d'une rivière de pétrole, il réussit, à partir de son cours fossile, à créer un fleuve lacté. Sacré fil. Comme les choses sont appelées à se répéter, il existe au fin fond de l'Ariège un homme qui n'a pas hésité à ressusciter les collections disparues du fleuve noir pour les faire renaître dans la maison d'édition de son complice Jean-Marc L'Officier, Black Coat Press, et d'appeler sa collection Rivière Blanche. Quand vous saurez que cet homme se nomme Philip Ward, et Ward peut avoir en anglais pour synonyme gardien, qu'il a une barbe grise et que l'attention qu'il porte à ses congénères est digne de l'humanisme le plus profond, on se dit que oui, l'histoire se répète, et qu'en de très rares cas, c'est vraiment bien. Donc venez découvrir Rivière Blanche, ou je vous bouffe.
sur Radio G dans ce voyage spatial.
On n'est pas nature et découverte. De la musique synthétique, alors les Allemands ils appellent ça kosmische Musik plutôt. Ouais. Et donc c'était le révélateur avec le morceau Fleuve Noir, c'est pour ça que je l'ai choisi. Alors le révélateur, donc c'était le guitariste Godspeed You Black Emperor jusqu'à 2003, et puis il a complètement laissé tomber les guitares pour retrouver ses vieux synthétiseurs, et il fait de la musique synthétique. Okay. Il s'appelle Roger Taylor Craig, et c'était un extrait d'un 5 titre Horizon Fears qui est sorti en cassette sur le label NNA Tapes, qui sort des cassettes.
Que des cassettes.
Mais vous pouvez quand même.
C'est impressionnant.
Vous pouvez quand même l'acheter en MP3 sur les plateformes de téléchargement payantes.
D'accord.
Voilà.
Eh bien, on enchaîne avec une présentation de Rivière Blanche.
Oui, alors comme le tyrannosaure nous le laissait entendre tout à l'heure, on va rentrer un petit peu dans les détails là cette fois-ci avec Rivière Blanche. Donc qui est Rivière Blanche? Donc c'est une maison d'édition française dont l'histoire commence officiellement en 2004. Alors je dis officiellement parce qu'en fait la structure est liée à une entité américaine appelée Hollywood Comics qui a lancé le département Black Coat Press aux États-Unis en 2003, donc un an plus tôt. Alors la démarche de Black Coat Press, dirigée par Jean-Marc et Randy L'Officier, et de traduire en anglais des romans de science-fiction et de fantastique français. Figurent notamment à leur catalogue des auteurs comme Paul Féval, Maurice Leblanc, Gaston Leroux et tout un tas de gens prestigieux comme ça. Alors, Rivière Blanche, quant à elle, aura pour fonction d'éditer des romans et des recueils de nouvelles de science-fiction et de fantastique, toujours français, mais en français cette fois-ci. Donc c'est à destination du marché hexagonal. Mmh. Alors supervisé toujours par Jean-Marc L'Officier, mais dirigé principalement par Philippe Ward, la Rivière Blanche s'inscrit donc dans la tradition des grandes collections du fantastique populaire proposées par les éditions Fleuve Noir dans les années 70. Alors, le parallèle Fleuve Noir Rivière Blanche, il est évident rien que dans le titre.
Ouais, moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte.
C'est vrai.
J'ai un peu honte.
Non, il y a déjà effectivement un gros clin d'œil, et puis les maquettes des couvertures de Rivière Blanche renvoient aussi volontairement et explicitement à celles du Fleuve Noir. Alors il y a plusieurs collections qui ont été lancées dès le début. La première en date et la plus connue, disons-le comme ça, c'est la collection Blanche ou Anticipation, qui publie des textes de science-fiction sous des couvertures qui répondent directement à celles de la collection Anticipation du Fleuve Noir. Surtout durant la période 66-73 où justement les couvertures étaient blanches. C'est une collection qui est numérotée, mais une numérotation assez particulière puisqu'elle commence au numéro 2002, c'est-à-dire juste au moment où son aîné s'est arrêté, qui est au Fleuve Noir. D'accord. Ça s'était arrêté à 2001. Donc depuis 2004, la collection Blanche perpétue la tradition d'une SF à la française grâce à un bon nombre d'auteurs prestigieux. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais parmi eux, on peut compter Jean-Pierre Andrevon, P.J. Hérault, Piet Le Guay, Daniel Piret, Max-André Régent, Richard Bessières, et il y en a encore une fois beaucoup d'autres. Mais Rivière Blanche, ce n'est pas seulement une structure nostalgique, et Philippe Ward a toujours eu la volonté de donner sa chance à de jeunes auteurs. On est bien placé pour le savoir autour de cette table. Et grâce à cette judicieuse alternance, en fait, la collection Blanche a également révélé des talents confirmés depuis lors, hein, comme Thomas Géa, Laurent Weil notamment. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure des années, la collection a atteint désormais 100 titres. Et désormais, une nouveauté paraît chaque mois.
Ouais, beau rythme de parution.
Un rythme très impressionnant, qui est d'ailleurs le même dans la collection Noire, quant à elle, a été lancée un petit peu plus tard, en 2006, qui s'inspire directement de la collection Angoisse, toujours du Fleuve Noir cette fois-ci. Donc Philippe Ward et Jean-Marc L'Officier avaient commencé par un coup d'éclat dans cette collection en rééditant l'intégrale de la série Madame Atomos d'André Karoff, soit 18 romans répartis en 6 épais volumes. Par la suite, elle va osciller comme la Blanche, en fait, entre recueils de nouvelles et de romans. Parfois, c'est des compilations de romans, textes inédits, et puis grands anciens et jeunes auteurs prometteurs. Donc, de Kurt Steiner à Dominique Rocher, de Gilbert Gall à Gudule, en passant par David Escara, dont le premier roman, Les Vestiges de l'Aube, fut le plus gros succès de l'éditeur. Tous les visages du fantastique sont passés en revue. La série des Compagnons de l'Ombre aussi, 11 volumes parus jusqu'alors, propose même des rencontres inédites entre de nombreux héros emblématiques de la littérature populaire. Une tradition que perpétue d'ailleurs la série Pantera, du mystérieux Pierre-Alexis Orloff. Et on peut aussi dire que le gore n'est pas oublié non plus, avec le grand retour de Nécrorient dernièrement, dont nous vous parlions dans une émission précédente, avec une belle interview pour célébrer la sortie de son plaque chauffante. C'est ainsi que donc la Noire, qui frôle aujourd'hui les 50 titres, propose désormais, depuis plus de 2 ans, également une nouveauté par mois, ce qui est un très très beau rythme.
C'est clair.
Un rythme un peu plus modeste, mais le pôle n'est pas moins important. Il y a aussi la collection bleue ou Dimension. Donc ça, c'est une sa maquette s'inspire des couvertures fusées du Fleuve Noir Anticipation toujours. Alors dans un premier temps, c'est une collection qui a surtout valorisé des auteurs non francophones cette fois-ci, comme Robert Sheckley ou Brian Stableford. Puis peu à peu, elle a commencé à s'ouvrir à des auteurs français pour proposer des anthologies thématiques réparties sous forme de recueils de nouvelles surtout. Alors citons par exemple les deux volumes consacrés à Graham Masterton, Les Enfants de Masterton et Les Mondes de Masterton. Les deux recueils Dimensions de Cap et d'Esprit, ça c'est de la fantasy historique, et les bientôt deux numéros de Dimensions super-héros, consacrés aux super-héros issus de l'univers hexagone, dont Romain nous parlait dans une... Romain d'Huissier, non pas notre maître de cérémonie, une très belle interview, imaginaire. Très intéressante et très dense
dans nos premières émissions.
Et donc un petit mot sur Dimensions super-héros peut-être.
Oui, alors Dimensions super-héros,
c'est une parution qui nous tient beaucoup à cœur.
Oui, c'est une parution qui nous tient beaucoup à cœur, puisqu'on retrouve 4 membres de l'association Imaginaire au menu de ces nombreux textes. Ça devrait sortir pour mars, et j'ai cru comprendre là par les quelques mails que je viens de recevoir qu'elles sont sera même disponible au festival de Bagneux, de Zone Franche de Bagneux, qui a lieu le 24, 25, 26 février, si je ne m'abuse, enfin là le week-end dans ces environs, à Bagneux, en région parisienne. Donc voilà, c'est un recueil de textes, un recueil de nouvelles qui est dédié à ces personnages-là de l'univers hexagone, de l'univers Lug, de l'éditeur Lug en fait. Et sur ce tome 2, je pense qu'il y a encore plus de variété que sur le premier, c'est-à-dire que vous allez avoir des textes avec des super-héros modernes, des textes avec des personnages beaucoup plus méconnus, je pense notamment à Bolas, qui est le héros qui s'occupait de, enfin qui vivait avec un cirque dans les années 70. Il y a de l'hyperboréen à la Conan, il y a des settings avec des personnages qui interviennent dans l'Italie des années de plomb. Voilà, il y a plein d'époques, plein de styles de personnages différents. Ces dimensions super-héros, j'ai envie de dire presque, c'est pas que du super-héros, parce que c'est vrai que c'est pas toujours que des super-héros. Il y a des super-méchants, il y a des personnages sans pouvoir, il y a un espèce de, comment dire, on pourrait le résumer comme un Sherlock Holmes fantôme qui mène une enquête à distance. Enfin voilà, il y a beaucoup de variétés sur celui-là. Je cherche pas à en faire l'article, mais je pense qu'il est assez intéressant. Et puis voilà, bon bah 4 membres de l'association Imaginaire au menu. Donc voilà, donc c'est une sortie bientôt.
Autant dire que si on aime Rivière Blanche nous le rend bien sur ce coup-là, et on est tous bien impatients d'avoir le volume en main. Alors transition toute trouvée avec ce que tu viens de dire. En fait, il y a aussi chez Rivière Blanche une autre collection intégralement elle consacrée à l'univers hexagone justement. Donc hexagone, ce sont ces comics européens autrefois publiés en France par les éditions Lug. Et là, on a de très belles rééditions sous forme de gros albums de type intégral,
omnibus intégral.
Chacun comporte pratiquement 500 pages, voire même davantage des fois. Donc c'est vraiment très très opulent. Il y a plus d'une vingtaine de titres qui sont parus, qui compilent les aventures de, on va pas tous les citer non plus, mais on a Phoenix, Wampus et les équipes de la Brigade Temporelle, Strangers, etc. etc. Et puis pour finir ce petit tour d'horizon, parce qu'il y a encore une autre collection, celle-ci s'appelle Baskerville, c'est la plus récente.
Oui, c'est vrai.
Elle a été lancée en 2010 par Jean-Daniel Breck. Et elle propose des romans et des recueils émanant d'auteurs issus de l'Angleterre victorienne, en fait. Alors, il y a 10 titres parus pour l'instant. C'est pas la collection que je connais le mieux personnellement, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ça aussi entre aventure et fantastique, entre énigmes policières et proto-SF. Donc, ça peut être intéressant d'y jeter un œil aussi. Vraie curiosité.
Il y a un petit PDF sur le site web de Rivière Blanche, un genre de petit.
Exactement.
Magazine à télécharger où il y a quelques nouvelles et puis aussi des extraits de ces romans.
Ça peut être une bonne manière de découvrir.
Mais c'est vrai que globalement, j'ai cru voir que sur le site de Rivière Blanche, il y a beaucoup de premiers chapitres de télécharger pour se donner une idée. Donc ces premiers chapitres peuvent contenir une nouvelle ou un début d'histoire si c'est pas un recueil, et effectivement je pense que ça peut donner envie ou pas quoi.
Exactement.
Tellement de telle variété que de toute façon forcément vous trouverez quelque chose. Si vous écoutez cette émission, vous aimez bien le fantastique, la science-fiction, les genres populaires, vous devriez trouver votre bonheur
Je pense que
Rivière Blanche.
Ça va être difficile pour. Ouais. Et puis bah oui, il y a même pour tous les gens qui ne trouveraient pas leur bonheur jusqu'à avec tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, il y a aussi une non collection définitive. Il y a une vingtaine de titres qui sont regroupés sous le label hors collection. Alors ça, c'est des ouvrages d'archives, des recueils de nouvelles, des romans inédits qui rentrent pas vraiment dans le cadre des collections précitées, mais ça n'empêche qu'on retrouve parmi ces livres un peu inclassables des auteurs aussi passionnants que Michel Pagel, Jean Delahire, Jacques Sadoul et Lionel Davoust, par exemple. Donc le spectre est très très large. Et ça vaut aussi le coup de s'y pencher. Alors, comme on peut le voir, le catalogue Rivière Blanche est d'une grande richesse. En fait, on pourrait presque dire qu'il n'a qu'un seul défaut, c'est que ses livres ne sont pas très très visibles. Alors, il y a une explication à ça, c'est que Philippe Ward et Jean-Marc Lefissier ont choisi de se passer de toute distribution et d'imprimer leurs livres à la demande. Alors, le but principal, c'est de limiter les stocks et d'offrir une meilleure rémunération à leurs auteurs.
En fait, qu'est-ce que ça veut dire? J'explique un tout petit peu pour ceux qui pourraient ne pas savoir trop comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock en librairie, sauf certaines boutiques partenaires. Je pense notamment à Phénomène J, qui les a tous.
Les
Angevins sont plutôt chanceux parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France.
Il y en a 15.
Mais après, voilà, soit vous avez une librairie ou un bouquiniste pas loin de chez vous que vous pouvez aller consulter, voilà, aller le commander, soit ça passe par internet et dans ce cas-là, dès que vous passez commande, en fait, ce qui se passe, c'est que Rivière Blanche derrière passe commande en Angleterre avec un organisme qui va fabriquer le livre et vous l'expédie. C'est comme ça que ça se passe.
Donc ça représente des tirages de combien d'exemplaires à peu près?
Il y a un tirage de base de 50.
Tu sers sur les salons, dans les boutiques, etc. Et
voilà.
Et après ils retirent autant de fois.
Selon la demande, en fait. C'est un mode de fonctionnement en flux tendu qui permet de
pas de stock,
et puis d'avoir une rentabilité immédiate et une trésorerie saine, en fait. Bon, alors ça peut paraître un peu curieux, mais ça n'empêche que tous les livres sont disponibles dans l'absolu dans n'importe quel point de vente. C'est-à-dire qu'on peut, même s'ils sont pas en rayon, les commander dans n'importe quelle boutique.
Oui, complètement. Oui, c'est n'importe quelle librairie ou rayon culturel, même, j'imagine. Il y a moyen, il faut avoir les références, quoi.
Ou alors, sinon, pour les accros de l'informatique, en deux clics, c'est partout sur Internet, y compris et surtout sur le site de l'éditeur. On peut remplir un panier très facilement.
Mais même sur des sites marchands connus qui commencent par A, ils ont ouvert une boutique aussi. Alors bon, c'est pas autant aller directement chez l'éditeur, clairement. Mais voilà, c'est pour dire qu'on...
Et les délais sont quand même assez rapides.
Oui, ça va super vite. Ils sont beaux, comme je disais, le faire sur mesure. Moi, ça m'est arrivé de commander des ouvrages, je sais plus, c'est une poignée de jours, quoi. C'est pas souvent 24 heures peut-être, mais
c'est dans la semaine.
Si vous commencez le lundi, vous l'avez le jeudi.
C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, ils travaillent comme des professionnels, bien qu'étant complètement amateurs. Parce que ça, on l'a pas dit, Philippe Ward et Jean-Marc Lefissier, la Rivière Blanche, c'est pas leur métier.
Les bénéfices, finalement, servent à payer l'auteur, parce qu'il y a des droits d'auteur très élevés, très élevés par rapport à ce que peuvent proposer d'autres éditeurs. Donc il y a vraiment la volonté de travailler avec l'auteur dans la meilleure relation possible. Et ça sert, j'imagine, enfin, je suis pas dans leur compte, mais probablement à financer les sorties suivantes, quoi. Ça s'alimente comme ça, quoi.
Voilà. Tout ça pour dire que, contrairement aux apparences, il n'y a pas que de la bitlit et de la fantasy cliché en France. Il y a toujours des éditeurs courageux qui continuent à maintenir la science-fiction et le fantastique de qualité. Vous savez ce qu'il vous reste à faire désormais.
On revient après un morceau, on revient vous proposer quelques coups de cœur.
Voilà.
Sur
bien sur Radio G et ce n'est pas Mireille Mathieu. Donc qui c'est ?
Alors c'était, on vous a abandonné pendant 10 minutes lâchement avec avec les bouchers de Agonoise. Alors j'espère que ça s'est bien passé.
Ah oui.
Donc il y avait deux morceaux différents. Le premier s'appelle Eye Against Me, il est extrait de l'album Sieben. Et le deuxième, une petite friandise qui s'appelle Bis das Blut gefriert, ce qui veut dire jusqu'à ce que le sang gèle. Alors c'est un titre assez curieux qui a un double sens dans la mesure où c'était également le titre allemand du grand film d'épouvante de Robert Wise, La Maison du Diable, chez nous. Et il existe d'ailleurs au sujet de ce morceau un clip du groupe Agonoise a visionné un vrai clip, hein, non pas un fan-made, et qui vous donnera une idée de ce que ça peut donner visuellement.
Allez le voir.
Sur YouTube, alors.
Sur YouTube, il vaut vraiment le coup, et c'est vraiment ce que l'électro-terror peut nous réserver de mieux dans le domaine. Enfin, moi, je trouve que ça fonctionne très très bien.
Agonoise, donc.
Un joli jeu de mots.
Voilà. On enchaîne sur les coups de cœur. Après vous avoir présenté cet éditeur qu'est Rivière Blanche, on va évidemment vous proposer quelques noms parmi les 200 titres, j'imagine, maintenant, à peu près. Hein,
ça a été dur de choisir.
Tu dois compter cette collection. Donc oui, vas-y, je t'en prie, commence-t-on.
Alors bon, quant à moi, j'ai découvert la Rivière Blanche par le biais de la réédition de la saga de Madame Atomos. Alors Madame Atomos, c'est une série qui a été publiée à l'origine par les éditions Fleuve Noir, on en a déjà parlé, dans la collection Angoisse. Alors c'est une série qui est très très particulière parce qu'elle se situe en fait au confluent de plusieurs genres de la littérature populaire. Ça tombe bien, c'est que des genres qu'on aime bien, à savoir espionnage, policier, science-fiction et fantastique. Il y a un petit peu tout
vraiment,
ça.
Vraiment, d'accord.
Et ça fonctionne très très bien. Hein. Donc c'est une création du regretté André Karoff qui met en scène principalement une savante de génie, Kanoto Yoshimuta, qui a décidé ni plus ni moins de se venger de la destruction de Hiroshima et Nagasaki. Donc c'était un vaste programme et son personnage en fait se rapproche un petit peu de celui du Fu Manchu de Sax Rohmer et de l'ombre jaune Monsieur Ming éternel ennemi de Bob Moran. En fait c'était un petit peu à l'époque la mode du péril jaune en littérature populaire, mais le traitement d'André Karoff est quand même beaucoup plus radical, hein. Avec Madame Atomos, on est dans la destruction massive et tous les moyens sont bons, zombies, araignées mutantes, ondes électromagnétiques. La diabolique japonaise ne fait pas dans la dentelle et le body count de la série reste assez impressionnant. Et c'est là que justement ça devient vraiment passionnant, dans le sens où André Karoff a doté Madame Atomos d'ennemis à sa démesure même, on pourra dire, et que les ennemis en question sont pas du tout épargnés. En fait, ils sont tous menacés, voire même pris à partie directement. Aucun personnage n'est à l'abri, alors que l'auteur a pris justement bien soin de nous familiariser avec eux. C'est toute la cruauté de la démarche. Alors il y a parmi ces personnages Smith Befford, qui est un agent du FBI. Il collabore étroitement avec Yoshio Akamatsu, qui travaille pour le compte de la police japonaise et connaît donc très très bien Madame Atomos. Il y a le docteur Soblen, qui est un spécialiste en énergie atomique, ça s'impose, ainsi que le singe, collaborateur direct de J. Edgar Hoover, et ils seront tous mis à mal durant la série en fait. Et l'inventivité destructrice de Madame Atomos sera décuplée encore quand cette équipe émérite détruira son repère. Surtout quand Smith Befford aura réussi à libérer la jeune Mia Souza, qui était jusque-là connue sous le surnom de Miss Atomos, donc la numéro 2 de l'organisation. Et donc sa volonté était annihilée par la grande méchante, et elle n'était plus maîtresse d'elle-même. Alors c'est une série qui est vraiment dynamique, nerveuse, qui est dotée d'un grand sens de la narration et du suspense. Ça bouge dans tous les sens. Il y a aussi une absence totale de retenue dans la violence, ce qui fait vraiment plaisir. Des personnages forts et attachants, des retournements de situation en pagaille. Enfin bon, voilà un modèle de saga de littérature populaire qui n'a pas pris une ride malgré les années, quoi.
Centré sur une grande méchante en plus, qui est plutôt originale finalement. D'habitude, on a le héros qui affronte plein de méchants. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est la grande méchante qui va affronter plein de gens qui essayent de l'empêcher de nuire, visiblement.
Voilà. Ouais.
Je vais en faire une.
Ah bah allez.
Donc moi aussi je vais évoquer ce par quoi je suis venu à Rivière Blanche. Ça fait une sorte de, c'est comme si on était une secte, c'est un peu bizarre, mais non, mais en fait j'ai découvert moi Rivière Blanche chez Phénomène J quand j'ai vu un recueil qui s'appelait Dimension URSS. Et en fait moi je suis assez intéressé par tout ce qui touche à l'Union soviétique dans des perspectives vraiment d'histoire, de goût historique.
Et c'est des textes qu'on n'a pas souvent l'occasion de lire, à part les Strugatsky qui sont connus, et d'autres références comme ça. Et là, en fait, je suis tombé sur cette anthologie rassemblée par Patrice Lajoie, qui contient pas mal de textes de Kir Boulitchov, de Vladimir Pokrovski, de Valentina Soloviova, pardon. Je vais y arriver. Donc voilà, c'est de la science-fiction soviétique qui date des années 60-70. Et c'est des textes intéressants puisque bon, je pourrais pas en parler des heures parce que je suis pas vraiment un spécialiste de la science-fiction, je suis plutôt fantastique, mais je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose, pas en plus hein, un petit quelque chose de différent par rapport à la science-fiction yankee de l'autre côté du rideau de fer en gros. Je sais pas, une approche sur le plan humain qui était peut-être un peu différente. Je suis pas en train de dire qu'ils étaient plus ou moins humains, je compare pas hein, mais enfin je voyais une certaine différence, une certaine saveur dans ces textes-là. Et c'est une bonne entrée en matière sur cette science-fiction qui est en quasi. Alors ces bouquins-là justement sont là pour lutter contre, mais elle est quasi en passe d'être oubliée finalement, hein, complètement occultée par ses confrères américains. Si c'est une bonne entrée en matière et si ça vous intéresse, après il y a dans la même série un recueil de deux romans de Kir Boulitchov qui est sorti, qui contient La robe blanche de Cendrillon, qui est le titre d'ailleurs de l'ouvrage, et on retrouve c'est des courts romans, Le grand esprit et les fugitifs. Et en fait, ces deux romans ont le même personnage principal, qu'une sorte d'explorateur spatial, on va dire, et qui se retrouve là avec deux missions différentes. Mmh. Il y a une première mission où il se retrouve à devoir côtoyer des êtres humains modifiés, mais plus que génétiquement, quoi, complètement transformés pour leur boulot, pour bosser dans les hauts fonds ou près de fournaises des volcans, etc. Et se pose la question jusqu'à quand restons un être humain. Et sur Le grand esprit et les fugitifs, en fait, il arrive sur une planète où il y a une peuplade qui évolue dans, on va dire, une technologie néolithique ou ce genre de choses, et qui est en fait une sorte de gigantesque test, expérience sociologique faite par d'autres savants qui sont là à les regarder. Et en fait, il y a aussi toute la question de l'ingérence dans des cultures dites primitives et de ce que ça peut poser, quoi. Mmh. Donc comme la SF américaine, il y a beaucoup de thématiques hein, qui sont abordées. Voilà, l'humanité, qu'est-ce qui fait de nous des humains, le rapport entre cultures, etc. Mais c'est un regard un peu plus, c'est un regard différent. Je pense que ça vaut le coup de parcourir ces textes-là. Au niveau du rythme et tout, moi j'avoue, des fois j'ai eu un petit peu de mal parce que c'est des textes qui ont peut-être un petit peu vieilli, on va dire, pour quelqu'un qui un lectorat peut-être plus incliné à lire des ouvrages modernes. Mais bon, moi je trouve que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser parce que voilà, c'est vraiment des fragments d'une autre littérature, d'une autre époque, et il n'y a pas beaucoup d'occasions de lire ce genre de texte.
En effet, de toute façon, c'est aussi une des grandes particularités de Rivière Blanche, c'est de faire un petit peu comme ça figure d'archiviste, de défricheur, l'idée de lutter contre l'oubli est vraiment là. C'est pas que ça, c'est quand même une constante. Hein.
À noter que Dimension, justement, d'ailleurs, il y a Dimension plein de pays, quoi. Il y a d'ailleurs un Dimension Russie qui est sorti sur la SF russe après la chute de l'URSS. C'est toujours Patrice Lajoie, je crois, qui est aux commandes. D'ailleurs, c'est lui aussi qui a traduit avec son épouse. C'est eux qui ont traduit tous les textes là que j'évoque. Il y a une Dimension Suisse, il y a une Dimension de pays d'Amérique du Sud. Il y a vraiment moyen, voilà. Un pays vous intéresse, une zone géographique vous intéresse, vous voulez savoir quelle science-fiction il faisait, il est très probable qu'il y ait une Dimension qui soit sortie sur ce pays. Enfin, peut-être pas tous les pays non plus, mais voilà, il y a quand même pas mal de choix.
Bon, moi je vais repartir sur la noire, parce que c'est un petit peu ma collection de prédilection. Donc, de même que je vous parlais de Madame Atomos il y a quelques instants, on doit aussi quand même signaler chez Rivière Blanche les deux volumes d'angoisse de Les Bien-Nommés de Kurt Steiner. Alors, comme le titre l'indique, hein, ces deux recueils sont la réédition de six romans parus jadis dans la mythique collection du Fleuve Noir. Alors, avec le grand Marc Agapi, Kurt Steiner fut l'un des meilleurs et plus prolifiques écrivains de la collection. Et tout comme Agapi, en fait, il inventa en quelque sorte une formule. C'est-à-dire que le fantastique de Kurt Steiner puise dans le passé pour nourrir le présent. Il fait la part belle aux spectres, aux revenants, aux légendes, mais tous ces personnages sont ancrés dans le monde d'aujourd'hui. et leur perte de repère n'en est d'ailleurs que plus troublante et effrayante. Et comme en plus l'auteur dispose d'une très très belle plume et excelle dans la peinture d'atmosphère inquiétante et envoûtante à la fois, je ne peux que conseiller ces deux ouvrages. D'ailleurs, je résiste pas à la tentation, je vous donne les titres.
Oui, oui, oui.
Parce que là, ils sont vraiment, rien que les titres me donnent envie. Donc on a Le Seuil du Vide, suivi des Rivages de la Nuit et Le Village de la Foudre. Et dans l'autre volume, il y a Lumière de sang dans un manteau de brume et Morte fontaine.
Ouais, c'est des titres déjà super parlants.
Voilà, donc clair. Normalement, je pense que les amateurs de fantastique devraient pouvoir s'y retrouver.
Oui, il me tente, j'avoue.
Le Seuil du Vide, ça n'a pas été adapté en film au début des années 70.
Exactement. Il y a eu un film de, je crois, Jean-François Davy, si je ne m'abuse.
Ouais, peut-être avec une musique de Francis Lay qui est assez géniale, que moi j'ai vu sur CinéaFX.
Yes. C'est vrai, j'avais oublié.
Moi, justement, je me demandais, est-ce que vous connaissez d'autres, des adaptations ciné de romans sortis chez Rivière Blanche?
À ma connaissance,
non.
Je me trompe peut-être, mais à part celle qu'on vient de mentionner, je n'ai pas une connaissance non plus encyclopédique de tout le catalogue, mais je n'ai pas l'impression.
Et vous parliez de David Escara, il y avait un projet autour de...
David, c'est sa série des projets, justement, Blackberg, va être adapté au ciné. Et Les Vestiges de l'Aube avaient effectivement été édités à l'origine chez Rivière Blanche, mais il n'est plus disponible chez Rivière Blanche, étant donné que les droits sont passés chez un autre éditeur. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet de développement ciné pour Les Vestiges de l'Aube. En revanche, il y a une BD qui devrait arriver.
D'accord.
Qui est en cours d'élaboration.
Ok.
Plus de news bientôt.
Donc moi je vais vous vous parler rapidement de la série des Compagnons de l'Ombre. Donc c'est une série de recueils de nouvelles avec quantité d'auteurs français, américains qui vont mettre en scène des personnages, on va dire de la mythologie populaire française essentiellement, mais pas que, il y a aussi des personnages de textes anglais, et qui vont avoir pour particularité ces aventures de les faire se croiser. Donc voilà, c'est pas facile de vouloir ce qu'on va trouver parce que c'est très très divers, mais vous pouvez avoir des textes où le Dracula va croiser Tarzan, ou Bob Moran va rencontrer Sherlock Holmes. Bon, des fois même ça croise les époques, il y a toujours des prétextes, il peut y avoir des créatures lovecraftiennes qui vont devoir affronter des mousquetaires, enfin voilà, c'est toujours un petit peu ça paraît délirant comme ça, mais c'est toujours des textes dynamiques d'aventure avec du fantastique, là aussi de la science-fiction. Ça sort très régulièrement, Les Compagnons de l'Ombre, puisqu'on en est au 11e, si je ne m'abuse. À chaque fois, il y a une bonne quinzaine de textes, je dirais, environ. Où, voilà, c'est toutes ces légendes qui vont se croiser, lutter les uns contre les autres aussi. On peut avoir le docteur Frankenstein qui est poursuivi par un tel ou un tel. Donc voilà, c'est des textes assez courts, toujours typés, avec plein de personnages, où des fois l'histoire, d'ailleurs, réelle, se mêle, puisqu'il peut y avoir des personnages historiques également qui vont intervenir sur ses aventures. Et de temps en temps, de ces Compagnons de l'Ombre, en tout cas de cette démarche des Compagnons de l'Ombre, peuvent sortir d'autres titres, et je pense notamment à La Nuit du Nyctalope, auquel j'ai participé, qui est un ouvrage lui aussi de recueil de nouvelles, mais centré sur le personnage du Nyctalope, donc le personnage de Léo Sinclair, écrit par Jean de La Hire, qui est probablement un des premiers, sinon le premier super-héros du monde, puisque on a Léo Sinclair avec une identité secrète qu'est le Nyctalope. Le Nyctalope qui a un cœur bionique qui probablement l'empêche de vieillir, parce que c'est vrai qu'il fait plein d'aventures tout au long des années, et qui voit dans le noir aussi, qui a subi une greffe qui lui permet de voir dans le noir, d'où son nom. Et il va affronter plein de gens, il va affronter des moines qui lisent dans les pensées, il va affronter des personnes, des savants fous qui vont avoir une base dans les fins fonds de l'océan, il va y avoir des fois des récits complètement à la James Bond avec pas trop de fantastique, il va aller sur Mars à plusieurs reprises, en radioplane, voilà. Donc,
on voyage.
Voilà, c'est ça. Donc par exemple, voilà, dans La Nuit du Nyctalope, il va y avoir des textes des fois inédits de Jean de La Hire que va republier Rivière Blanche, et suite à ça il y a des recueils de nouvelles d'auteurs qui lui font vivre des aventures. Mais attention, tout ça, que ce soit Les Compagnons de l'Ombre ou La Nuit du Nyctalope, Jean-Marc L'Officier veille à ce qu'il y ait une storyline, une chronologie, alors à défaut d'être réaliste, les gens vont sur Mars, etc., mais qui est complètement scrupuleusement cohérente. Où il va, si vous vous êtes intéressé par un Compagnon de l'Ombre, vous pouvez envoyer vos textes d'ailleurs, essayez, pourquoi pas, c'est accessible vraiment aux débutants, mais il va vous dire ah non, à telle époque, dans tel texte il est là, c'est pas possible,
Par contre, il y a rien entre 1905 et 1908, donc si tu veux. Donc voilà, c'est vraiment très très cohérent. Et d'ailleurs, je vous en parlerai la prochaine fois parce que je me rappelle plus du nom. Si, Emmanuel Gorlier, oui, qui s'est consacré au Nyctalope, qui a fait toute une chronologie, donc avec évidemment toutes les œuvres de Jean de La Hire, mais auquel aussi il va intégrer dans cette chronologie toutes les suites ou les préquelles qu'ont pu faire les auteurs successifs. Et donc ça donne des chronologies immenses et très scrupuleuses. Et c'est assez intéressant. Enfin, je trouve ça assez marrant, quoi.
Incroyable.
Un vrai feuilleton, donc.
Ah oui, bah, c'est très feuilletonnant, complètement.
On est complètement dans cet esprit-là. Ouais. Et bah, moi, j'ai mon enchaînement tout trouvé. Donc, si vous t'avais fini, Julien.
Oui, j'avais fini.
Bah, moi, je voulais aussi parler de la série Pantera, parce que là, on est vraiment complètement dans cet esprit-là. Pantera, alors là, pour le coup, c'est une série qui est plus récente. Il y a toujours dans cette souci d'alternance chez Rivière Blanche de mêler l'ancien et le moderne. Alors, il y a deux romans parus jusqu'à présent, un troisième qui est annoncé pour cette année, vivement. Pantera, donc c'est du roman feuilleton, hein, du vrai. On est vraiment dans la lignée de Fantomas et autres Judex. Alors, Pantera, c'est une jeune femme génétiquement modifiée qui s'est donné pour but de retrouver, de châtier les responsables de la mort de ses parents. Et comme de juste, sa quête sera longue, semée d'embûches et aussi de cadavres, évidemment, en tant qu'affaire. Elle croisera pêle-mêle centaures, farfadets, satyres et autres nymphes, parce qu'évidemment, les portes de la féerie sont ouvertes, donc ça devient un vrai bordel. Mais aussi occultistes, crypto-nazis, le tout dans une ambiance rétro, qui donne un charme fou à ses aventures, vraiment avec un esprit pulp déclaré, assumé. C'est d'ailleurs un peu la prolongation et en même temps que la résurrection d'un genre, puisque enfin prolongation parce que le roman feuilleton existe depuis maintenant plus d'un siècle. Et résurrection, parce que Pantera renvoie autant à la Mephista de Maurice Lima qu'à Witchblade, pour citer un personnage de comics plus récent. C'est-à-dire que ses pouvoirs, elle les maîtrise pas si bien que ça. Ils se retournent assez souvent contre elle. Donc c'est de l'excellent roman populaire, trépidant, fétichiste et diablement bien écrit d'ailleurs, ce qui ne gâche rien.
Moi, je vais vous parler d'une dernière référence, mais alors je vais pas m'étendre dessus parce que je ne l'ai pas lu, mais je compte le lire. Mais je sais que l'auteur, moi, écrit toujours des choses qui me plaisent beaucoup. Donc c'est Destination Cauchemar de François Sarkel, qu'on retrouve sous le nom de Brice Tarvel. Et dans Destination Cauchemar, c'est une personne qui part voyager en Asie, au Cambodge, je crois dans les jungles cambodgiennes, si je ne m'abuse, et ça dégénère vraiment salement. Et voilà, Destination Cauchemar. Donc je reviendrai vous en causer, mais si vous avez l'occasion, je pense que vous ne serez pas déçus, parce que Brice Tarvel, François Sarkel, c'est un auteur très 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 talentueux, qui est à la croisée de Brussolo et de Bordage, moi je dirais, dans sa manière de construire des fois des mondes assez délirants, mais qui paraissent crédibles, parce que voilà, il y a tout un univers qui se construit autour de postulats des fois un peu bizarres, et puis aussi qui touche à tout, qui a écrit du gore, qui a écrit de la fantasy, qui a écrit du roman pour enfants, du fascicule, etc. Du roman purement d'aventure aussi, dont je vous reparlerai, et voilà, donc Destination Cauchemar, je vous garantis que c'est bien, même si je ne l'ai pas encore lu, je sais que c'est bien. Il y a peu de chances que vous soyez déçus.
On enchaîne avec de la musique.
Oui, alors Iggy Pop.
1979.
Voilà, 1979, New Values. On va écouter
l'album du retour au rock, apparemment, d'après ce qui est écrit dessus.
Alors en fait, ouais, moi je trouve que c'est un album ultime. Moi, c'est mon album préféré d'Iggy Pop. Je les ai tous. Je suis un gros gros fan. Je l'ai vu 5 fois en concert. Je suis quasiment un inconditionnel, même si bon, j'écoute pas toujours que ça non plus. Mais New Values, voilà, c'est un album de 79. En fait, Iggy Pop sort de sa relation, on va dire professionnelle en tout cas, David Bowie, avec lequel ils ont beaucoup beaucoup travaillé à Berlin. Bowie a fait sa trilogie berlinoise, Iggy Pop a fait The Idiot, a fait Lust for Life, tous ces tubes là, etc. On sait que David Bowie avait une emprise, mais en gros utiliser aussi Iggy Pop pour explorer des choses qu'après lui on allait retrouver dans ses albums. Voilà, il y avait quand même une grosse grosse influence de Bowie sur Iggy Pop, même si ces albums là sont géniaux. Sauf que là, Iggy Pop va capitaliser sur tout, peut-être pas ce qu'il a appris, mais tout ce qu'il a fait récemment, et va faire revenir un dur de dur, puisqu'il fait revenir James Williamson, qui était le guitariste à l'époque de Raw Power, donc des espèces de guitares stridentes qui des fois jouent complètement de leur côté, etc.
Dans les Stooges, hein.
Voilà. Ils se retrouvent ensemble pour cet album là ils en feront encore une autre collaboration, mais qui sera coupée au montage. Donc voilà, c'est leur dernière collaboration en date avant le retour des Stooges actuels,
quelques années,
parce que maintenant il a remplacé Ron Ashton, le précédent guitariste, qui est décédé. Et donc voilà, en fait, moi je trouve que c'est un album où il y a, comment dire, il y a tout le l'énergie primale d'Iggy Pop, et il y a quand même un petit côté sophistiqué où on voit qu'il a travaillé avec Bowie. Il y a encore cette influence, mais elle est pas excessive. C'est pas une mainmise, quoi. Donc c'est un album, voilà, de bout en bout, il est formidable. C'est une sorte de post-punk en 79, donc c'est quand même assez fort parce qu'on était en plein dans le punk, quoi. Et on a coutume de dire que souvent, voilà, Iggy Pop, c'est les Stooges, c'est quelques collaborations avec Bowie, et puis il n'y a rien d'autre à sauver. Alors que là, non, c'est un album, c'est lui qui est aux commandes, il est tout seul comme un grand dessus, et c'est proprement gigantesque. Donc là, c'est Five Foot One.
On va se quitter sur ce morceau d'ailleurs.
Ah oui, hein, déjà,
ouais.
Bon.
Ouais, c'est long.
D'accord.
Je vous parlerai de Def Hawk Recordings.
On a été trop bavard, dis donc, c'est passé vite finalement. Donc Five Foot One, où Iggy Pop se lamente de qu'il ne fasse pas cette taille-là, qui est une taille américaine, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et il est très très malheureux.
Bon, et ben rendez-vous donc dans deux semaines sur Radio G pour la prochaine d'Imaginaire. Salut.
Salut.
tempo. Please just work out slow. I'm there for what I believe. Time to bliss, I'm at a knee. Lose on the way to win, so slow. I'm the crazy nobody. You BF talk to back me. I'm the masterpiece. You're my ecstasy. Time to kill the fantasy.